Bienvenue ce soir dans la maison de Dieu.
Amen.
Ce soir, on va continuer les études sur les paraboles du royaume des cieux. On était rendu à la parabole de la perle de grand prix. On la retrouve dans Matthieu 13, versets 45 et 46. Deux petits versets courts qui m'ont donné beaucoup de recherches. Matthieu 13, verset 45-46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles pertes. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Deux petits versets courts, mais comme je dis, beaucoup de recherches. Pour comprendre la signification de cette parabole, ce que la perle représente, il faut aller voir une autre parole que le Seigneur Jésus a dite concernant les perles. D'ailleurs, c'est la seule autre place où le Seigneur Jésus mentionne le mot perle. Juste une place où le Seigneur parle des perles, c'est dans Matthieu 7, le verset 6. Et le Seigneur dit à ses disciples, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Ici, les choses saintes et les perles sont de pair. Le verset ici les met en parallèle. Les perles sont aussi des choses saintes. Et ces choses saintes-là, ne les donnent pas aux chiens ni aux pourceaux. C'est quoi des choses saintes selon la parole de Dieu? Parce qu'on compare les perles à des choses saintes. En Nombre 18, verset 17, Dieu a dit à Moïse, « Mais tu ne feras point acheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. » Les sacrifices consacrés à l'Éternel étaient des choses saintes. Tu ne peux prendre des choses saintes consacrées à l'Éternel pour les donner aux chiens et aux pourceaux. Dieu a même dit concernant le sacrifice de l'agneau pour la Pâque dans Exode 12, verset 10, « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. » Il n'est pas question que tu donnes ce qui reste aux chiens ou aux pourceaux. Parce que ces choses-là, c'est des choses saintes, c'est des sacrifices consacrés à l'Éternel. Tu ne comprends pas que ce qui était consacré à l'Éternel pour lui donner aux chiens, aux pourceaux. C'était des choses saintes. Hébreux 10, verset 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre des questions de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, si l'offrande du corps de Jésus-Christ a remplacé les sacrifices selon la loi qui étaient des choses saintes pour Dieu, à plus forte raison, son propre Fils est pour lui une chose très sainte. Et c'est pour ça que je peux comparer Christ au Père. Christ est une chose sainte. Tu ne prends pas Christ, tu ne donnes pas au chien. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 29-30 nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Donc, Christ est une chose sainte, comme les perles dans Matthieu 7, verset 6. Et comme Christ qui a dit de ne pas jeter vos perles aux pourceaux, de peur qu'il ne les foule aux pieds, il en va de même pour ceux qui ont été sanctifiés par le sang de l'Alliance de la femme du corps de Christ. On ne va pas fouler aux pieds le Fils de Dieu. Si on les foule aux pieds, un châtiment nous attend au jugement. Revenons à notre parabole, la perle. Ça, c'est un peu d'informations que j'ai cherché sur Wikipédia concernant la perle. Donc, vous parlez un peu de la perle. L'autre dit, il y a plusieurs formes de perles. Il y a la baroque, puis en tout cas, il y a des noms scientifiques, là, mais des différentes sortes de perles. Mais, la perle qui est parfaite, elle existe, la perle parfaite. La perle qui est parfaite, mais en ronde, est la plus rare et la plus chère. Il en existe des perles parfaites. Mais comme ils disent, c'est la plus rare qui sont les plus chères. Moi, j'ai rajouté, mais c'est la perle de Grand Prix. C'est pour ça qu'elle est rare. C'est pour ça qu'elle est parfaite. C'est pour ça que le marchand, il était à la recherche de belles perles, il en a trouvé une encore plus belle que ce qu'il y avait. Parce que quand tu trouves une belle parfaite, de loin avec la signification de l'autre chose, tantôt, tu vas garder. Tu t'en veux plus des autres. Parce que la baroque, elle est pas parfaitement ronde. La goutte d'eau est faite comme une goutte d'eau. Tandis que celle qui est parfaitement ronde, mais le Woody est parfaitement ronde. Rappelons-nous qu'une perle est le produit d'une certaine souffrance causée par exemple par un grain de sable qui s'est introduit dans l'œuf. C'est vrai que c'est un grain de sable, mais l'autre dit que ça peut être un autre grain de n'importe quoi d'autre, ça peut être un grain. C'est une petite chose qui rentre dans l'œuf, puis là ça part. Mais la plupart du temps, c'est un grain de sable, je vois après un grain de sable et je vois le grain de sable. Causé par exemple par un grain de sable qui s'est introduit dans l'œuf. Pour se protéger, l'huître sécrète alors une substance organique appelée le nacre, qui enrobe et isole le corps étranger. À la longue, le tout prend l'apparence d'une perle. De même qu'une perle se forme dans l'huître à cause d'une irritation, ainsi en est-il de Christ. Il a été rendu parfait par les choses qu'il a souffertes. Et ça, on voit ça dans Hébreux 5, versets 8 et 9. A appris, en parlant de Christ, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et j'ai vérifié, là, parce que quand ceux qui ont dans le Bible, vous savez, là, on a le King James, on a la traduction en tout en français. J'ai été voir la King James, qu'est-ce qu'ils disent en français, puis j'ai lu la traduction de la King James, pour vous la lire. C'est la même affaire, Hébreux 5, verset 8 et 9. Bien qu'il fût fils, cependant, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Par les souffrances, Christ a été rendu parfait. Oui, Christ était parfait ici-bas, il n'a pas péché. Mais le salut accompli, il fallait qu'il passe par les souffrances. Pour que le salut soit accompli, qu'il soit parfait. Et Christ a passé par les souffrances. Et comme la perle, à cause d'une douleur, à cause d'une irritation, l'huître sécrète un ocre sans arrêt jusqu'à temps que ça forme la perle, jusqu'à temps qu'on arrive à une perle parfaitement ronde. Ils sont rares, mais il en existe. La brillance de la perle varie en quatre catégories de lustre. Excellent, bon, pâle et faible ou pauvre. La perle qui a un lustre de grade excellent est une perle qui est très brillante, même éclatante. La surface de la perle agit comme un miroir. Elle reflète distinctement les objets. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Jésus. On reflète Christ. Mais pour refléter Christ, il faut qu'on le voit, il faut qu'on se mire dedans. Et la perle qui a un grade excellent, elle a une brillante, éclatante, elle fait refléter les objets. Ben, comme Christ, on se voit dedans. T'sais, on reflète Christ. Il faut qu'on se mire dans lui, dans sa parole, pour pouvoir le refléter. Mm-hmm. Donc, une perle qui est parfaitement ronde et brillante, même éclatante, ne peut signifier autre chose que la perfection de Christ dans toute sa pureté. Donc, Christ, pour moi, est la perle de Grand Prix. Donc, si Christ est la perle de grand prix, le marchand qui est-il? Tout d'abord, il faut se transporter à l'époque de Christ, quand Christ a dit cette parabole aux disciples. Parce que si vous remarquez les trois dernières paraboles, là, la foule est plus là. Christ s'adresse strictement à ses disciples. Premièrement, nous savons que Christ est venu pour les siens avant tout. Christ a dit lui-même dans Matthieu 15, verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis, perdues de la maison d'Israël. » Il est venu pour les siens en premier. Et Christ était avec les siens à ce moment-là, quand il dit cette parabole-là, il était avec les siens. Et au temps du Seigneur, et même bien avant, il y avait beaucoup de marchands à l'entrée des villes en Israël. Des marchands de toutes sortes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la parole de Dieu, mais quand on lit une place, il y avait des marchands d'arrobas, tu avais des marchands de tissus, des marchands de poissons. Et pour vous donner un exemple, il y a beaucoup des gens dans la parole de Dieu, Néphosiens, Néhémie 13, verset 19-20. Parce que faut se mettre dans la peau du contexte à l'époque. Tu sais, il n'y avait pas de Costco, il n'y avait pas de Rona, il n'y avait pas de Walmart. Le cultivateur, celui qui produisait quelque chose, s'il voulait le vendre pour continuer à vivre de ses choses, il fallait qu'il aille au marché. Il vendait son huile, il vendait sa laine, il vendait ses aromates, il vendait ses épices au fond de la ville. Que la plupart étaient des marchands. Pas comme on voit aujourd'hui, là. On se recule à l'époque. Néhémie 13, verset 19 et 20. Puis j'ordonnais qu'on fermât, c'est Néhémie qui parle, puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les oublie qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Parce qu'il y avait une mauvaise habitude, pendant le sabbat, il allait aux portes et il vendait. Pendant le sabbat, il ne fallait pas que tu fasses rien. Néhémie n'a qu'à voir tout ça, puis il les a là-dedans, il les a chassés hors de Jérusalem. Vous allez pouvoir voir. Parce que vous êtes des fardeaux pour le peuple. Et si on prend un autre exemple, de porte, le marchand, souvenez-vous des portes qu'il y avait après la muraille de Jérusalem. La première, c'est la porte des brebis. Et la deuxième, on trouvait tout de suite la porte des poissons. Et la porte des poissons, c'est que les gens sortaient par là, allaient pêcher le matin, revenaient et installaient les tables et vendaient des poissons à cette porte-là. Les marchands de poissons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marchands dans la parole de Dieu à cette époque-là. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de magasin là, pour s'approvisionner. Là, là qu'elle voyait un puis l'autre, il y avait du troc, puis c'est même que ça fonctionnait. Vous savez, un marchand peut pouvoir vendre toutes sortes de choses, que ce soit de l'huile d'olive, des épices, du tissu, du poisson et même des perles. Il faut qu'il soit continuellement à la recherche de ses choses s'il veut fournir la demande. Continuellement à la recherche de ses choses. Prenez juste Pierre, ça c'est Pierre Jean-Jacques Henri, qui était des pêcheurs. Ça en a pêché toute la nuit quand ils ont rencontré le Seigneur. C'est parce qu'il ne mangeait pas. À Lucas, il ne mangeait pas un filet de poisson. C'était un filet plein de poisson. Probablement qu'il vivait de la pêche, il vendait aussi. C'était des marchands de poissons. C'était même que ça marchait à l'époque. Pour vous dire que le Seigneur, vous manquez la dernière parabole, il parle du filet qui est à la mer. Il y a quatre pêcheurs avec lui, à qui tu lui dis cette parabole-là. C'est pour qu'il fasse le lien. T'sais, Dieu ne prend pas des choses pour qu'on comprenne. Non, non. Il sert des choses qu'on voit, qu'on sert. Pour justement qu'on comprenne la parole de Dieu. C'est pour cela que Christ a dit que le royaume des cieux était semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Christ voulait que les siens, Israël, et les disciples qui étaient là présentement, fassent le lien avec ce marchand de perles et eux, qui s'identifient à ce marchand étant des marchands pour la plupart d'entre eux. Cherchez la perle de grand prix. Cherchez Christ. Isaïe 55, verset 6 nous dit, c'est l'Éternel qui parle au travail d'Isaïe, le prophète, et on sait que Dieu parle à son peuple par les prophètes. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il s'adresse à Israël, Et Isaïe 65, verset 1, nous dit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Ça, c'est vous, les païens. Donc, Israël, les Juifs, puis nous, on est les marchands. On est ceux qui doivent chercher Christ. Cherchez-le, on va tantôt, pendant qu'il se trouve. Cherchez-le tandis qu'il est prêt, pendant la période de la grâce. Christ était venu, et jusqu'à quand qu'il revient, on est dans cette période-là. Et on doit le chercher. Alors, je sais, vous allez dire, je ne l'ai pas cherché, il m'a trouvé. Oui, c'est vrai qu'il m'a trouvé. Mais n'est-ce pas qu'on l'a trouvé pareil? N'est-ce pas qu'on l'a dans notre vie? Mm-hmm. Vous allez voir l'exemple en plein par rapport à ça tantôt. Et... c'est parce qu'il se laisse trouver. Christ n'est pas, pas caché. Il n'est pas dur à trouver. Il dit, il est proche de chacun d'entre nous. Il se laisse trouver. Romains 10, verset 1 nous dit que dit-elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est près de toi. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Christ était parmi les siens. La parole est près de toi. Christ était parmi les disciples au moment de la parabole. Et Christ est parmi nous aujourd'hui, puisque c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, juifs et païens avons accès à Christ aujourd'hui. Christ se laissera trouver. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, comme j'ai dit tantôt, le marchand, Israël, les juifs, puis les païens, nous. C'est nous qui représentons le marchand, et c'est nous qui devons chercher cette perle de grand prix-là. Parce que, justement, elle a un grand prix. Elle vaut plus que n'importe quoi d'autre. Deutéronome 4, verset 29 nous dit c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Pour tous ceux qui cherchent avec sincérité la vérité de la parole de Dieu, Christ se laissera trouver par eux. Et pour tous ceux qui ne cherchaient pas, Christ se laissait trouver quand même. On appelle ça le don de Dieu, le don de la grâce. Jean 1, verset 12-13 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais n'est-ce pas qu'on l'a trouvé pareil? N'est-ce pas que je peux dire que j'ai trouvé Christ dans ta vie? N'est-ce pas que lorsque nous avons trouvé Christ dans notre vie, qu'il n'y a plus rien qui compte ou qui a de la valeur, comme ce marchand qui est allé vendre tout ce qu'il avait pour s'approprier la perte de grand prix. On est prêt à tout pour gagner Christ une fois qu'on l'a trouvé. Sacrifice, abandon. Souvenez-vous quand vous êtes venu au Seigneur, les choses qu'on a faites pour plaire à Christ. Les abandons qu'on a faits. Il y en a qui ont abandonné leur famille. Il y en a qui ont sacrifié beaucoup de choses pour plaire à Christ, pour pouvoir suivre à Christ. Il y en a qui ont parti de loin pour se rapprocher. Qui ont laissé patrie, on peut dire, qui se sont rapprochés pour suivre Christ. C'est un exemple du marchand qui vend tout, qui se débarrasse de tout, parce qu'il vient d'acquérir la perte de l'humanité. C'est la même chose quand on a Christ dans notre vie. Quand tu viens de l'avoir, il y a rien que ça qui compte. Et moi, je me compare les exemples que j'ai eus au commencement, mais je peux vous dire, j'en ai fait des choses. Vous pouvez assister à des réveils, vous pouvez assister à mes cultes, vous pouvez être de jour, parce que je serais de nuit. Tout ça parce que je voulais plaire à Christ. Parce que je venais de trouver. C'est un terme de grand prix. Ça n'a pas de prix, ça. Je t'en veux, t'en veux, t'en veux. Et on est prêt à faire beaucoup de choses. C'est une valeur que je faisais là, s'estompe. Hein. Vous avez remarqué, avec les années, ça s'estompe. On n'a plus cette même tranche-là de vouloir tout faire pour Christ. C'est une valeur. Mais souvenez-vous au début, pour la plupart, on a fait des sacrifices. Et là, quand je dis sacrifice, je ne veux pas parler que. Ah, on a fait des sacrifices, pas par nos sacrifices pour mériter le salut, mais aucunement. C'est juste pour vous montrer que quand tu acquiers Christ dans ta vie, quand tu le trouves, tu es prêt à faire beaucoup de choses pour y arriver. Ta job passe en deuxième quasiment. Tu fais tout pour être Christ. Puis Dieu place les choses, puis. Il y en a qui ont abandonné. sais, tout ce qui peut être nuisant dans nos vies, les choses du passé, on a tout mis ça de côté parce que c'est Christ qu'on voulait. Mais c'est lui qu'on voulait servir. L'apôtre Paul résume bien ce qui se passe quand tu viens de trouver Christ dans ta vie. Philippiens 3, versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Toute la vie passée de Paul était de ce côté. Paul était instruit. Paul avait la connaissance. Mais toutes ces choses-là, même si pour lui c'était des gains, il a considéré ça comme des pertes. Parce que Christ était son bien. Christ était le plus grand bien. C'était la perte de grand prix. Il était prêt à tout laisser pour le suivre. Dans la parabole, le marchand l'a acheté. Le marchand a acheté la perte, la parole, tout vendu ses affaires, il a acheté la perte. Je sais que nous ne pouvons acheter Christ. Mais Isaïe 55, verset 1 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Comment peux-tu acheter de quoi sans argent, sans rien payer? La seule chose que je vois, c'est que lorsque tu as trouvé Christ dans ta vie, tu achètes la cause de Christ et tu le sers volontairement. Achat et vente sont aussi utilisés dans un sens symbolique dans la Bible. Et j'ai quelques exemples, vous ne les lirez pas, vous donnez juste les versets. Le peuple est vendu à l'ennemi. On voit ça dans Juges 2, verset 14. L'homme naturel est vendu au péché. Romains 7, 14. Il doit être acheté, Isaïe 52, 3. Les proverbes recommandent d'acheter la sagesse et de ne pas la vendre. Proverbes 17, 7, 23, 23. Vous voyez que ce n'est pas acheter puis vendre monétairement. C'est-à-dire d'en payer l'acquisition par ses efforts à mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas s'en défaire facilement. C'est la signification qu'il donne d'acheter et de vendre. Donc, le royaume des cieux est semblable à des gens qui ont trouvé Christ dans leur vie, la perle de grand prix. Ils ont laissé leur ancienne vie, abandonné famille et amis pour servir Christ, leur sauveur, la perle de grand prix. Si vous vous souvenez de la parabole juste avant, Christ a trouvé l'Église. Dans la parabole du Salon, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le capte et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le champ, on sait que c'est le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Christ a payé ce champ de sa vie. Et dans ce champ, il a trouvé l'Église. Il a trouvé Pierre, André, Paul, Jean, Matthieu. Et de là, il a institué son Église. Il l'a trouvé dans le monde, dans ce champ. Christ ne cherche pas l'Église comme le marchand cherchait la perle de grand prix. Que la perle, pour moi, ne peut pas signifier, je ne peux pas la mettre à l'Église, que la perle représente l'Église, parce que Christ ne cherche pas l'Église. Christ l'a trouvé. Il nous l'a institué. Donc, qu'on essaye d'avoir une reconnaissance pour cette perle de grand prix qu'un jour on a trouvée, qu'un jour elle est habitée ici en dedans. Puis qu'on se souvienne des efforts, des abandons, de toutes les choses qu'on peut avoir faites pour le suivre, pour mettre sa parole en pratique, pour lui plaire. Souvenez-vous du début, qu'on essaie de ne pas laisser aller ces choses-là, qu'on essaie d'aller les chercher, parce que l'appel n'a pas pris. Christ n'a pas pris. Et on ne doit pas être foulé aux pieds comme on a vu. On doit être conservé, apprécié pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et on doit continuer à mettre sa parole en pratique. On doit continuer au travers de sa parole de le chercher. Parce qu'il va se laisser trouver dans toute la parole. Parce qu'il est la parole. Mm-hmm. Que tu ailles dans l'Ancien Testament à nouveau, si tu cherches, Dieu va te le montrer, il va se manifester.
Amen.
Tu vas le voir dans les sacrifices, tu vas le voir dans l'arc d'alliance, tu vas le voir dans tout, le créer.
Ouais.
On se doit de ne pas se contenter de l'avoir trouvé, puis de s'assire dessus, de dire, j'ai trouvé l'appel de Grand Prix, pour en trouver un autre, je vais dire, oui, c'est vrai, pour en trouver un autre, tu sais que tu es le Grand Prix. Mais continue à chercher. Continue à chercher dans ta vie. Continue à aller voir les choses qu'il y a pour toi dans la parole de Dieu. Et il va se révéler au travers de la parole. Il va te montrer les choses encore merveilleuses. Les choses qui sont cachées. Mais comme tu as dit aux disciples, à vous, ça vous a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Mais pour le monde extérieur, ils sont voilés. Mais si on veut trouver ces mystères-là, si on veut voir Christ partout, il faut qu'on le cherche. Il faut que tu fasses la parole de Dieu. Et il va se laisser trouver parce qu'il n'est pas loin de nous. Il est juste là. Que Dieu vous bénisse.